C'était ce mardi, la 30e commémoration du massacre de la place Tiananmen à Pékin. Massacre causé par l'intervention des chars de l'armée chinoise contre les manifestants, essentiellement des étudiants, qui demandaient la démocratie. Si l'histoire de cette répression sanglante reste taboue en Chine, il en est de même pour un certain nombre de sujets liés à la société d'aujourd'hui. Car en l'espace de quelques années, le pays le plus peuplé du monde est devenu très compliqué pour les journalistes. Contrôle, mise sur écoute, interpellation des sources, chantage au visa, surveillance et menaces, la pression s'est accentuée. Et ce qui est vrai pour les journalistes chinois l'est aussi pour les correspondants étrangers. Alors peut-on encore être un journaliste en Chine? La guerre de l'information est-elle déclarée? C'est la question qu'on va poser ce matin à nos deux invités. François Bougon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, vous êtes l'ancien correspondant de l'AFP à Pékin, où vous l'avez été de 2005 à 2010. Vous avez été chef adjoint du service international du Monde, vous êtes donc un spécialiste de l'Asie et vous avez écrit tout récemment, le livre vient de sortir, La Chine sous contrôle, Tiananmen, 1989-2019 aux éditions du Seuil. En face de vous se trouve Dorian Malovic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous chef du service Asie au quotidien La Croix et vous connaissez très bien la Chine, vous y avez consacré un grand papier dans La Croix il y a quelques jours à l'occasion du 30e anniversaire donc de Tiananmen. Eh bien tiens, partons de Tiananmen. Est-ce que vous savez un peu tous les deux comment les médias chinois ont couvert cette commémoration? Déjà, est-ce qu'ils en ont parlé, Dorian Malovic?
Écoutez, à ma connaissance, les médias chinois nationaux et régionaux n'ont pas parlé d'une commémoration quelconque ou d'un événement quelconque.
Parce qu'il ne s'est rien passé il y a 30 ans, c'est ça?
Parce que le message officiel est qu'il ne s'est rien passé à cet endroit-là il y a 30 ans. Et que, à part quelques Chinois à l'étranger, enfin, je veux dire, comme je pensais au général chinois qui était à Singapour d'une conférence internationale, qui a été sollicité pour parler de Tiananmen, il a reconnu qu'il s'est passé des choses, mais que la façon dont le régime a géré ces turbulences était la meilleure façon possible et que du coup, ça avait vacciné la Chine contre toute velléité de se soulever.
François Bougon, les jeunes journalistes, ignore peut-être cette histoire, puisque de toute façon, cette histoire est absente même des manuels d'histoire scolaire. Mais les anciens, ils la connaissent. Et les anciens sont pas si vieux, il n'y a que 30 ans, ça n'est pas non plus 70 ans. Donc les anciens, ils la connaissent. Que se serait-il passé si des journalistes avaient parlé de Tiananmen dans les journaux?
Ils peuvent pas, parce que de toute façon, il y a un système de contrôle et de censure et d'autocensure qui fait que c'est tout simplement inimaginable. Alors, je voudrais juste apporter une précision. Il y a le seul à en avoir parlé, c'est le Global Times dans sa version en anglais. Donc, le Global Times, c'est une filiale du Quotidien du Peuple, donc l'organe du Parti communiste, qui a depuis quelques années, depuis 10 ans, je crois, une version en anglais qui est assez marqué par un ton nationaliste. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le rédacteur en chef, c'est un ancien de Tiananmen, Hu Xitin. Il a participé au mouvement. Et donc, lui, régulièrement, il fait des papiers. Parce qu'il est sur cette position aujourd'hui qui a changé en Chine d'être beaucoup plus agressif, plus revendicatif, affirmatif. Et donc, lui, il a fait un éditorial et il a dit, de toute façon, on ne regrette rien. De toute façon, c'était une bonne décision, réprimer le désordre. Ce mouvement contre-révolutionnaire a permis 30 ans de stabilité à la Chine.
Et c'était, je pourrais ajouter, c'est que le Global Times a une version en anglais. Clairement, c'est destiné aux médias étrangers et à tous les leaders à l'étranger. Mais cette version en anglais, où on parlait de Tiananmen, n'a pas été en version chinoise. On a bien fait la différence, c'est-à-dire pour les Chinois à l'intérieur, on n'en parle pas. Mais le message, c'est le messager, le porte-voix, le Global Times, d'une certaine catégorie du parti, enfin je veux dire des fois très 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 nationaliste et qui défend la ligne officielle.
Je parlais de contrôle, de mise sur écoute, d'interpellation des sources, de pressions diverses et variées. Est-ce que justement de façon globale et pas seulement le Global Times cette fois, il faut effectivement distinguer le travail des nationaux du travail des étrangers ou bien tout le monde est logé à la même enseigne? François Bougon.
Tout le monde est logé à la même enseigne. Donc en fait, quand on parle de journalisme en Chine, il faut déjà penser aux journalistes chinois qui, eux, sont soumis à la pression renforcée sous Xi Jinping qui a redit de manière très très claire que les journalistes, que le journalisme était là pour servir les intérêts du parti. Il est allé faire une visite il y a quelques années aux trois principaux médias officiels, le Quotidien du Peuple, CCTV, la télévision et l'Agence Chine Nouvelle, et il leur a dit clairement « Votre nom de famille, c'est le parti ». Donc en fait, ils sont au service du parti. Après, les journalistes étrangers subissent aussi des pressions et des empêchements de travailler, mais parce qu'ils sont perçus comme des ennemis extérieurs, des forces hostiles. Et c'était clairement indiqué dans un document que Xi Jinping avait fait circuler, qui s'appelle le document numéro 9 en 2013, et qui pointait 7 dangers pour la Chine, et l'un des dangers, c'est le journalisme à l'occidental.
Dorian Malovic.
On est considéré... Alors, la définition du journaliste à la chinoise, le journaliste est un agent du gouvernement. Et j'imagine, la non-équité dans ce cas-là, c'est que les journalistes chinois à l'étranger sont des agents du gouvernement, travaillent pour le gouvernement. Nos journalistes correspondants étrangers à Pékin sont considérés comme tels par le régime, alors que ça n'est pas le cas. Les correspondants de Radio France, les correspondants du Monde, etc., font leur boulot, mais ils sont considérés comme tels, comme vient de dire François, comme un danger. Donc, ils sont, en revanche, eux sont hyper contrôlés, hyper suivis. Je pense qu'aujourd'hui, on a une technologie tellement... Enfin, je vois bien, en 5 ans, l'évolution... François, t'étais à Pékin, c'était pas encore un contrôle autant. On redoutait toujours, en Chine, depuis 30 ans, c'est... Nos téléphones à l'hôtel sont sur écoute, c'était la crainte, et on est suivi dehors. Depuis 20 ans, 25 ans, 20 ans, 15 ans, etc., on se disait, voilà, c'est ça qu'on risque. Et pas toujours, y a de la dissuasion. Mais là, avec la technologie, alors d'une part, des journalistes qui feraient des sujets sensibles, ils sont ouvertement suivis, c'est-à-dire qu'avant...
Qu'est-ce que c'est les sujets sensibles?
Le Tibet, le Xinjiang...
Les trois T. Tibet, Tiananmen, Taïwan.
C'est le Xinjiang aujourd'hui, oui.
Le Xinjiang, mais il y a des tas de sujets de société. Si vous allez creuser la pollution, par exemple, vous allez voir des boîtes, vous allez chercher des témoignages. Après, il y avait ces histoires d'enfants uniques aussi. Si vous commenciez à aller voir les femmes qui avaient été stérilisées de force, etc. Enfin, il y a des tas de sujets de société très contrôlés, des sujets politiques quasi intouchables, des dissidents, des avocats, des militants de droits de l'homme. Enfin, tous ces gens-là sont sur des listes. Et si un journaliste étranger essaye de les approcher, ils sont immédiatement repérés. Les téléphones aujourd'hui, ils vous les aspirent à distance que vous avez sur vos téléphones. Donc et aujourd'hui, on est suivi, mais de ce que je vois avec les journalistes de l'AFP maintenant, du BBC ou de CNN, il y a 4-5 agents en civil chinois qui les suivent et qui se montrent pour dire voilà, on vous empêche, puis alors voilà, tout est fait pour les empêcher de bosser.
François Bougon.
Oui, mais en fait, c'est un retour à ce que les anciens journalistes correspondants ont connu à une certaine époque, notamment après 89, c'est-à-dire des agents civils qui vous suivent en permanence. À l'époque, il y avait beaucoup moins de journalistes correspondants. Mmh. Aujourd'hui, la technologie a évolué, donc il y a une capacité beaucoup plus grande de pouvoir contrôler ce que font les journalistes. Et comme de toute façon, vous avez besoin à la fois des téléphones portables, vous avez besoin de votre ordinateur. Et le rapport du Club des correspondants étrangers de 2018 le montre très bien, que les conditions de travail se sont fortement dégradées. 55% des journalistes qui ont été interrogés pour cette enquête l'ont dit, et c'est depuis 2011 qu'on n'avait pas vu ça.
Et puis c'est en particulier vrai depuis que les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de l'information ont pris un poids particulier. Les choses se sont réellement aggravées, vous l'avez senti comme ça. Alors vous, effectivement, François Bougon, vous y étiez de 2005 à 2010. D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent on lit que le tournant a été 2008 avec les JO, parce que justement la couverture des médias occidentaux a été jugée négative par le gouvernement chinois, puisque l'accent avait été un petit peu trop mis à l'heure. Goût sur les droits de l'homme et les abus concernant les droits de l'homme. Vous avez senti ça, tournant 2008 et ensuite accélération, aggravation de la situation avec les nouvelles technologies?
Moi, je dirais que le tournant, c'est 2010. C'est-à-dire qu'il y a eu les printemps arabes et tout d'un coup, la crainte du point de vue du régime que les printemps arabes puissent se propager en Chine. Donc, il y a eu un déploiement de sécurité et puis un renforcement du contrôle sur les journalistes étrangers, notamment les empêcher d'aller, de se rendre sur d'éventuelles manifestations. En fait, les manifestations, elles n'ont pas été si grandes que ça. Mais donc, il y a eu vraiment cette crainte. Et je pense que c'est 2010. Avant 2008, il y a eu quand même un engagement. Et moi, je me souviens très bien, puisqu'on j'y étais. Il y avait officiellement un engagement de, du régime chinois de s'ouvrir beaucoup plus, puisqu'ils allaient accueillir les Jeux Olympiques. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir avec les prochains Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, de voir comment la Chine va s'engager et comment elle va faire en sorte que les conditions de travail s'améliorent.
C'est...
Oui, Dorian Balovic.
Non, je... à ce stade aujourd'hui, de mon point de vue, à mon sens, quelles que soient les promesses de la Chine à cet égard, c'est absolument pas possible de croire la moindre desserrement du contrôle.
Ça peut pas se rouvrir.
Ah bah à ce stade aujourd'hui, on peut jamais dire jamais. Il y a des cycles. Hein. En Chine, on est dans des cycles. Vous vous souvenez des années 80? C'était l'ouverture.
Et oui, là, vous parlez d'un retour aux années 80.
On avait toujours moyen, même dans les années 90, on pouvait toujours financer, on pouvait toujours se débrouiller. Mais là, aujourd'hui, on ne peut plus.
On parle de la Chine ce matin dans la fabrique médiatique. En posant cette question, la guerre de l'information est-elle déclarée avec nos deux invités? François Bougon, qui est journaliste au Monde et qui fut le correspondant de l'AFP à Pékin de 2005 à 2010. Et Dorian Balovic, qui est chef du service Asie au quotidien La Croix. Précisément à propos de cette guerre de l'information, on entend ici ou là que le pouvoir mène une guerre de l'information. Donc en Chine, on l'a vu avec tous ces contrôles et même cette censure qui aboutit, vous le disiez, à une autocensure, mais aussi à l'étranger parce que la Chine tenterait d'imposer ce modèle ou contre-modèle au reste du monde. Est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'on peut l'affirmer comme cela? François Bougon.
Je serais moins affirmatif. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une guerre de l'information, c'est évident. Et il y a une volonté de la Chine d'imposer sa voix. En chinois, c'est le droit à la parole. En fait, il y a sentiment parmi les dirigeants chinois que les États-Unis contrôlent aujourd'hui le discours mondial. Donc en fait, il y a la volonté de la part des Chinois, d'imposer leur voix, leur parole, etc. Et donc ça passe par notamment le déploiement de moyens extraordinaires qui sont consacrés à des médias officiels. Alors la télévision s'appelle CGTN. Et donc on a vu notamment à Londres l'ouverture d'un siège qui est avec énormément de journalistes en Afrique et aux États-Unis. Et donc, mais c'est plus, contrairement à ce que font les Russes, qui essayent de s'intégrer dans une conversation nationale et de montrer des sujets nationaux, par exemple RT en France, parler beaucoup des Gilets jaunes, les Chinois, eux, sont plutôt dans l'idée de montrer ce que la Chine fait de bien. Donc c'est plutôt une propagande à l'ancienne, je dirais.
Dorian Malovic.
Ça, c'est évident, il y a des moyens considérables. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des milliards d'euros qui sont investis par la Chine pour s'installer dans le paysage et pour effectivement exprimer, donner la vision positive de tout ce que fait le président Xi Jinping, la Chine, en Chine et à l'étranger. Combien la Chine est généreuse en Afrique, combien en Amérique du Sud elle fait tout ce qu'il faut pour aider les infrastructures, etc. Mais évidemment, ils payent énormément les journalistes qui travaillent pour eux. Il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent pour eux. C'est des garanties pour eux de légitimité en disant, regardez, on a des journalistes étrangers. Et comme des Français, je suis pas certain que quand vous écoutez, quand vous entendez la façon dont sont gérées ces émissions ou ces messages, vous dites que ça ne peut pas percuter. C'est-à-dire, vous pouvez pas vraiment y croire, sauf à être vraiment ignorant de la chose chinoise, ce qui existe aussi, mais vous ne pouvez pas convaincre des gouvernements que ce média est équilibré, puisque c'est uniquement positif, en faveur, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de critique. Donc on le sait.
Mais RSF, par exemple, RSF, dans la bouche de Christophe Deloire, il faut rappeler quand même que la Chine se place à la 177e place cette année sur 180 pour la liberté de la presse. Hein, c'est vrai que c'est quand même important de le dire. Mais RSF parle donc de la volonté de Pékin d'établir un nouvel ordre mondial des médias qui passe par plusieurs choses. Ce que vous avez dit, François Bougon, c'est-à-dire ouvrir des hubs en Europe, en Afrique, aux États-Unis, racheter des journaux étrangers, créer des versions anglaises de journaux chinois et aussi inviter des journalistes africains, latino-américains, asiatiques, océaniens à former leur esprit critique à Pékin. Là, ça va quand même un petit peu plus loin que ce que vous dites tous les deux.
Non, parce que je pense que en fait, je pense qu'il y a un terrain d'expérimentation qu'il faudra regarder, et c'est pas la France, c'est pas l'Europe, c'est plutôt l'Afrique. Et c'est là où en fait se joue cette guerre de l'information. Et en Afrique, c'est vrai que CGTN est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire qu'ils ont embauché des journalistes africains, ils font énormément de sujets sur l'Afrique, mais toujours dans cette espèce d'idée de promouvoir un journalisme à la chinoise. Alors c'est quoi un journalisme à la chinoise ? C'est un journaliste, si on en croit Xi Jinping, qui infuse de l'énergie positive. Donc vous n'êtes pas là pour faire du contre-pouvoir comme le fait le journaliste occidental, mais vous êtes là pour faire en sorte que la société se sente mieux et qu'elle soutienne ces gouvernements. Donc forcément, dans beaucoup de pays africains, c'est reçu avec intérêt. Et c'est là où en fait ça devient inquiétant. C'est-à-dire que cette idée que on va progressivement mettre en place des structures pour former énormément de journalistes africains.
Est-ce que vous sentez l'un et l'autre qui couvrait notamment la Chine ou qui l'avait couverte, est-ce que vous sentez dans la presse française une façon particulière du coup avec tout ça? Aussi bien le contrôle, les pressions, la difficulté d'en parler, même de renoncer à la complexité singulière du pays par ses dérives autoritaires, que par cette volonté d'aller former un esprit critique différent ou faire passer un message très positif sur le modèle chinois, que ça s'en ressent dans les papiers ou dans la façon dont nous pouvons percevoir le pays, ou même bien plus largement, est-ce que le modèle chinois n'a pas un impact sur le reste du monde ? Jusque, y compris la défiance envers les médias. Enfin, quel est le poids de tout ça, Dorian Malovic ?
Votre question, elle n'est pas très simple. En fait, dans les médias étrangers, dans les médias européens, globalement, je crois qu'on s'en sort pas si mal sur une certaine façon de couvrir ce qui se passe en Chine. Il y a des éléments positifs sur la société chinoise. Il y a des choses qui se sont améliorées. Donc ça, elles ont été couvertes. Je pense que c'est très inégal, la façon dont les droits de l'homme, les surveillances, etc. sont couvertes. Mais là encore, c'est difficile, vous voyez, pour vous, dans cette émission, d'avoir des correspondants à Pékin en direct. Ils ne veulent pas parler sur la situation parce que leur risque, c'est que on ne leur renouvelle pas leur visa, par exemple. Donc, ce système de chantage, et ça veut dire que quand vous couvrez la Chine, enfin, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont dépenser énormément d'énergie pour apprendre le chinois, par exemple. C'est un investissement très spécifique et que vous n'avez pas envie de le perdre. C'est-à-dire, si vous allez après à Pékin et que on vous renouvelle pas votre visa, vous ne pourrez plus y aller. Donc, vous avez investi 10 ans de votre vie dans les études de chinois. Vous dites, c'est là où je veux aller, c'est là où je veux faire. Ça joue énormément et vous allez là-bas. C'est quand même pas aller en poste à Londres. C'est facile de revenir de Londres. Vous investissez. Puis, si vous êtes interdit de territoire, c'est compliqué de suivre la Chine de l'extérieur et vous perdez quand même une spécialité qui vous est propre. Et ça, le gouvernement chinois le sent très bien. Il joue là-dessus, quoi. Donc ça, c'est difficile d'avoir toujours... Il y a les militants des droits de l'homme dont on peut se servir pour faire passer des messages. Chacun fait son travail, quoi. Mais chacun a ses contraintes.
François Bougon.
Sur votre question, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect qui serait celui de l'autocensure, et ça, c'est difficile de le dire, mais je pense qu'il y a des sujets aussi qui disparaissent progressivement, par exemple le Tibet, on n'en entend plus parler. Ouais. Et puis d'autre part, il y a aussi cette manière qu'à la Chine de mettre en avant ses réalisations via par exemple des cahiers spéciaux. Alors ça passe par c'est ce qu'on appelle China Watch, qui est une déclinaison du China Daily, donc qui est un autre organe officiel en anglais et qui est publié dans des journaux à la fois en France, aux États-Unis, etc., et qui sont présentés comme des encarts publicitaires, mais en fait c'est de la propagande pure et simple.
Oui, et de cette façon-là, c'est ça qui peut être aussi inquiétant, c'est qu'on voit à quel point ce modèle-là peut infuser un peu partout et avoir de fait des répercussions qui nous touchent aussi, nous, directement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette fabrique médiatique. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, François Bougon, La Chine sous contrôle, c'était quand même le sujet, Tiananmen, 1989-2019, absolument passionnant pour comprendre la Chine et ses évolutions d'aujourd'hui. C'est un livre édité au Seuil. On se retrouve après le journal, nous serons en compagnie de la militante écologiste pour les océans, Claire Nouvian.